Il est largement l'heure de retrouver Bruno pour son émission Écriture dessinée. Bonjour à toi Bruno.
Salut Antoine. Alors aujourd'hui on va parler principalement et essentiellement d'un nouveau lieu qui est ici à Pondéreau. Ça s'appelle l'Orbise et il y a une exposition pour l'inauguration du lieu. Ça ouvre samedi et c'est avec une forte tonalité underground. Il s'agit de dessins et un très grand nombre de dessinateurs sont présents et en tout cas sur les murs de ce nouveau lieu. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure avec Émilie Évrard. Ouvrard qui est une des deux fondatrices de ce lieu à Pondéreau. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Et oui, l'année se lance véritablement. Et donc, ce nouveau lieu, l'Orbise, va être un lieu assez essentiel. Alors, avant de rentrer vraiment dans le lieu lui-même, eh bien, une brève. La brève, c'est la nouvelle exposition qui a lieu à De l'autre côté, qui est un lieu... un espace culturel et solidaire à Ganges. Et l'exposition qui va avoir lieu est liée aussi au dessin par notamment la typographie et pas seulement. C'est une exposition qui est faite en partenariat avec la librairie La Bestiole à Viol-le-Fort et avec le collectif... ça y est, voilà. Il y a des trous, c'est l'émotion. Et oui, donc le collectif Propagation, qui est un collectif de graphistes qui se rencontre chaque année sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour faire pour retrouver cette dynamique de l'affiche comme contestation, comme outil de rébellion. Comme par exemple, ça a été le cas en mai 68, mais donc bien sûr le temps a passé et ce rapport à l'affiche a beaucoup changé. Et ce qui est essentiel, c'est ce travail sur la typo, parce que, comme le dit Étienne Robial, qui est un graphiste qui a notamment fait toute la mise en image et l'habillage de Canal+, la France est dans un pays graphiquement sinistré et c'est pas l'IA qui va arranger les choses. Et ce travail de la typo, c'est vraiment pour retrouver cette force de la maquette, cette force du graphisme d'une affiche. Et là, il va y avoir vraiment un très bel éventail de ces affiches issues de l'atelier Propagation, qui ont été ramenés donc par la librairie La Bestiole, qui œuvre aussi dans ce sens. Cette exposition a un vernissage qui est vendredi à 13h, mais vous êtes conviés à un atelier participatif. Alors, vous ne pourrez pas tous participer, mais par contre, vous pouvez, si vous inscrivez à temps, participer à un atelier de réalisation d'affiches. La librairie La Bestiole a amené une presse portative pour pouvoir justement œuvrer dans ce sens. Donc c'est à partir donc de demain, vendredi 19 septembre, jusqu'à la fin du mois. Et vous pouvez découvrir ainsi tout le travail de l'atelier Propagation et de la librairie La Bestiole. Moustique. Mmh. Alors, bon, ça c'était l'expo. Et puis, il y a le lieu, l'Orbise, qui va ouvrir ses portes officiellement samedi 20 septembre. Et une exposition va donc démarrer ce jour-là pour une longue période. Et c'est un lieu où la résidence va vraiment être un des points forts de ce lieu qui est tourné vers les arts graphiques, vers le dessin, vers la sculpture, vers tout, mais avec une tonalité, un timbre plutôt underground. Emilio Ouvrard et Sylvain Etchegaray, qui sont ceux qui ont créé le lieu, ont créé, il y a une vingtaine d'années à Bruxelles, un autre lieu intitulé Sterput, qui avait cette même vocation de rassembler des artistes qui œuvrent dans une même énergie, mais en tout cas avec une expérience de liberté très forte dans leur engagement. Et c'est important parce qu'en tant que visiteur, bien, on est immédiatement sensible à cela. Alors, lorsqu'on rentre dans l'Orbise, c'est ce que j'ai fait lundi pour rencontrer des artistes qui étaient en résidence. Donc, après, un peu plus loin dans l'émission, il y aura les entretiens avec Charlotte Diakinon, Pete du Congo, et puis Alice Polka, qui étaient en résidence ces jours avant l'exposition. Donc quand on rentre, eh bien, on a une foison de dessins sur les murs, et c'est très, très intense. Souvent, on a des galeries avec des accrochages très maîtrés, où rien ne doit dépasser, tout est aligné et les espaces sont mesurés et identiques. Et là, au contraire, on joue sur la foison. Et là aussi, c'est une très belle liberté. Donc, pour parler de ce nouveau lieu, eh bien, c'est essentiel que l'on rencontre et que l'on entende Émilie Ouvrard, donc, qui va être avec nous en direct. Et le temps de l'appeler, c'est voilà. Donc, ouais, vas-y. Bah, sinon, il y a celle de Sylvain, parce qu'on va rester dans la tonalité. Et puis, voilà. Donc. Why is it? Why is it? Why is it? Donc j'ai présenté l'Orbiz, j'ai fait une première introduction. Donc bonjour Émilie Ouvrard.
Bonjour.
Alors, donc avec Sylvain Etchegaray, vous aviez créé à Bruxelles un lieu qui s'appelle Sterput. Avant qu'on détaille le projet de l'Orbiz, est-ce que vous pouvez nous parler de cette vingtaine d'années avec ce lieu Sterput? Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Sterput?
Alors, en fait, c'est une dizaine d'années pour le Sterput. En fait, on est resté une vingtaine d'années à Bruxelles. Et donc, le Sterput a été monté à Bruxelles il y a un peu plus de 10 ans. Et un Sterput, c'est un avaloir. Voilà, c'est, comment dire, parfois dans les caves, voilà, avec la raclette, on fait aller l'eau et ça va dans un avaloir. Voilà, je ne sais pas trop comment expliquer. c'est comme dans les éviers, mais au sol, quoi. Voilà.
D'accord.
Donc c'est un Sterput et en fait, c'est un terme belge, bruxellois, qui existe aussi en Wallonie et en Flandre. Et nous, en tant que bons expats, voilà, on avait monté cette petite galerie d'art associative. Et en fait, au départ, cette galerie s'appelait la galerie E carré. Et au fur et à mesure des années, le projet a évolué. Et il y a un moment où on a eu un lieu fixe et on a décidé de lui trouver un autre nom parce qu'on s'associait à d'autres personnes. Et a été proposé le nom de Sterput. On était avec d'autres expatriés français, mon Dieu, il y en a plein en Belgique, et qui avaient entendu ce nom par des copains en Belgique, et ils se demandaient bien ce que ça voulait dire, ça les faisait rire ce nom. Et donc voilà, on trouvait le nom sympathique, donc on a appelé la galerie Sterput, rien à voir avec l'art, c'est juste un Sterput. Voilà.
Alors, quel était le projet de votre galerie?
Alors le projet initialement c'était d'organiser des expositions ainsi que des concerts au tout début. Et au tout début on a eu l'occasion d'avoir un petit espace dans un centre d'art, dans un quartier populaire de Bruxelles pendant 6 mois, une mise à disposition d'un local. Et donc là tous les mois on a organisé une expo collective et toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, il y avait des concerts. C'était assez intense. Et voilà, c'était le projet de base, était parti sur 6 mois et finalement il a perduré. Et donc il a perduré de manière un peu itinérante avec des festivals, des expositions dans des cafés, dans des ateliers, dans des cinémas. Et puis au bout de, je sais pas, 5-6 ans, on a cherché à avoir un lieu fixe qu'on a réussi à trouver et à payer. Et depuis lors, le Sterput est fixé à Bruxelles, à un local, et ça s'est fort stabilisé, et c'est devenu, je pense, un lieu un peu une institution, quoi. Voilà, c'est... Maintenant, on est situé sur la place du Jeu de Balle, qui est une place assez connue à Bruxelles. Enfin, j'y suis plus, mais voilà, le Sterput est situé place du Jeu de Balle. Et donc maintenant, la programmation, c'est une expo tous les deux mois. Et on a beaucoup développé le pan micro-édition aussi au Sterput. Il y a tout un espace distro, donc ça signifie de distribution, distro. Donc c'est de la distribution de micro-édition. C'est donc des éditeurs ou les artistes eux-mêmes qui s'auto-éditent, s'auto-publient à travers des petits ouvrages expérimentaux. Voilà.
Alors, maintenant, vous êtes à Pondéro. Vous avez donc créé ce lieu, l'Orbiz, à Pondéro. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur le choix du lieu, sur ce qui comment s'est passé, comment vous imaginez vous installer dans ce lieu? Alors, l'expo, j'ai pu rentrer et découvrir, on va tout de suite y être. Mais pour vous, qu'est-ce qui a flashé à Pondéro?
On a eu l'occasion de visiter le local. Donc c'est situé à Pont-d'Hérault, donc dans l'ancienne usine, dans le quartier Les Cités, à côté de l'étude. Donc c'est un local assez industriel. Et voilà, nous on a toujours aimé le côté industriel des bâtiments. Donc ça nous a beaucoup plu. Et après, c'est tout simplement aussi qui nous semblait être à la bonne taille par rapport au projet qu'on avait. Des choses très pratiques comme il y avait l'eau, enfin voilà, il y avait des toilettes, voilà, ça paraît tout bête, mais le local, disons, était fort adapté à ce qu'on s'est imaginé, quoi. On s'y est projeté. Et le local avant appartenait, enfin était à Roland Lamont, un artiste qui faisait du décor peint, qui avait aménagé le local, voilà, avec des petites touches à lui. Et c'est un artiste qui est très talentueux et je pense qu'il y a encore un petit peu de son âme dans ce local et ça nous a aussi beaucoup plu. Voilà, il y a l'atelier par exemple, c'est une très belle vieille ancienne verrière. Voilà, il y a une grande salle derrière aussi qui est fort agréable et il y a une petite passerelle par derrière où on est au calme. Voilà, c'est pas l'idée qu'on a quand on traverse Pont-d'Hérault. Mais il y a les roues derrière et il y a un peu de calme tout en étant mixé avec ce côté très industriel. Voilà.
Émilie Auvrard, est-ce que vous pouvez nous présenter les projets que vous allez pouvoir développer à l'Orbise?
Oui, alors donc là, l'idée aussi, c'est en plus, disons, de... Ce qu'on développe en plus par rapport au Sterput, c'est un peu dans la continuité du Sterput, là ce qu'on propose. Le Sterput vit de lui-même, mais voilà, j'y étais fort attachée, j'y étais très présente, et donc on va dire que c'est un petit peu une extension comme ça du Sterput peut-être, je sais pas. Mais donc ici à Pont-d'Hérault, l'idée c'est quand même de développer beaucoup les résidences d'artistes. Voilà, c'est d'accueillir des artistes en résidence. Donc depuis une dizaine d'années qu'on organise des concerts avec le Sterput, on a pu rencontrer plein de gens et donc là l'idée à l'Orbise c'est d'accueillir un peu tous ces gens qu'on a pu rencontrer un peu partout, en Belgique, en France, en Espagne, d'avoir un lieu d'accueil, un lieu de création, comme j'expliquais, il y a un atelier, donc l'espace avec la verrière. Et donc là l'idée c'est de faire venir des artistes tous les étés, donc pendant deux mois et demi, et chaque mois de septembre. De vernir une grande exposition collective qu'on aura montée ensemble avec les artistes qui seront venus en résidence pendant les deux mois et demi. Voilà, donc ça, et l'expo resterait donc un an. Donc le temps, jusqu'au mois de juin suivant, où après on accueillerait à nouveau d'autres artistes pendant tout l'été pour réouvrir avec une nouvelle expo collective comme ça tous les ans. Alors après, on ne pourra pas ouvrir au public l'hiver. Voilà, on va avoir du mal à chauffer l'espace, donc on sera ouvert de avril à novembre. Et en fait, dans l'espace, il y a une grande pièce, donc c'est dans cette grande pièce qu'il y aura toujours cette grande expo collective qui sera donc changée tous les ans en fonction des artistes qui seront venus en résidence l'été. Mais il y a aussi un grand hall. Et dans ce hall, on a à nouveau développé un espace distro, donc la distribution de micro-éditions, donc plein de petits ouvrages artistiques et expérimentaux. Et il y a également des murs donc dans ce hall. Et ces murs, on aimerait les faire vivre un peu plus souvent que l'autre espace, que l'autre grand espace. Et donc peut-être organiser des expos, quelque chose comme tous les deux mois dans le hall avec plutôt des artistes du coin. Voilà, donc ponctuer l'année par des petits vernissages au niveau du hall et un grand vernissage annuel en lien avec la résidence de l'été.
Alors, Émilie Auvrard, je vous propose qu'on écoute aussi les artistes en résidence. Donc, j'ai pu en rencontrer trois. Il y avait donc Charlotte Chakinon, et oui. Puis Pete du Congo et Alice Polka. Alors, j'ai fait un montage de ces trois interviews avec une musique d'introduction et une musique pour clore ce son. Et on peut se retrouver donc juste après pour justement parler aussi musique et déroulé de la journée de samedi. À tout de suite.
À tout de suite.
Cette exposition à l'Orbis s'accompagne de résidences. Trois artistes étaient présents ce lundi sur place pour réaliser une œuvre. Par ordre d'entrée en scène, vous entendrez Charlotte qui signe Chakinon, plasticienne, graveuse, Pete du Congo, tatoueur, dessinateur, VG, vidéo jockey, et Alice dit Polka, dessinatrice, graveuse. Artiste nomade, engagé dans cet art underground, véritable expérience de liberté à laquelle nous sommes conviés. Ils s'expriment chacun sur cette dimension de leur démarche artistique, entretien entrecoupé par les ambiances du lieu.
« Donc dans le milieu où on gravite tous à peu près ici, c'est la micro-édition, l'underground, plutôt punk et sans argent. Du coup, on fait surtout beaucoup de trucs collectifs avec les moyens de bord. Là, ouais, résidence pour faire une sculpture, créer un univers. Enfin, sinon, Émilie et Sylvain, avant, ils avaient le Sterput à Bruxelles, où ça fait déjà longtemps que la plupart d'entre nous, on a fait pas mal de choses là-bas, presque toujours collectives. Après, moi, je connais à peu près que ça.
Non, la résidence, ça va être quoi, ce qui est préparé ici?
Là, du coup, j'ai fait des petits morceaux chez moi que j'ai transportés pour faire une plante mutante géante. Parce que, du coup, le thème, ça partait d'un livre de science-fiction où dedans, il y avait des plantes mutantes. Et c'est là-dessus que j'avais fait un visuel. Et du coup, je me suis dit, je vais reprendre un élément de mon visuel pour le mettre en 3D pour faire... partie de l'univers qu'il y a ici.
Il y a toute une partie de votre œuvre qui est au trait, dessin, gravure.
Oui, surtout la gravure. Oui, la base.
Quelle graveuse êtes-vous? Comment vous abordez le médium?
Le métal et l'acide.
D'accord.
Ouais. un peu de tout, mais surtout métal, acide, ouais. Puis un peu de sérigraphie, du crayon, du fusain. Un peu de peinture.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la gravure et dans cette taille douce?
Ouais, alors il y a le côté à la fois très précis et en même temps quand même très brut. Il y a toujours des surprises. Il y a le multiple aussi qui me plaît. Et en même temps, ouais, on ne sait jamais exactement ce que ça va être. On ne peut pas gommer le premier trait, c'est le dernier trait. Et on peut changer, on peut modifier, mais on ne peut pas revenir. Et du coup, il y a un côté... plus brut que j'arrive pas à avoir avec le dessin, où je reviens, je gomme, je lisse, et à la fin c'est trop lissé en fait. La gravure au moins, c'est beaucoup plus, je sais pas, un peu expressionniste allemand comme ça, un peu dégueulasse. Même quand j'essaie que c'est joli, c'est jamais joli. Mais, du coup, je trouve ça mieux. Enfin, c'était pas fait exprès, au début je voulais être réaliste, mais c'était impossible, et finalement je trouve que ça donnait un petit style. Ouais, c'est juste qu'il n'y a pas de gomme en fait. Après, des fois, avec des bains d'acide différents, on fait des gris et des trucs comme ça, mais il y a toujours cette surprise. C'est jamais tout à fait selon la morsure, selon la façon dont on a poncé et creusé, ça va pas du tout donner le même truc. Donc, moi, j'aime bien le côté surprise et multiple. Parce que les dessins uniques, je les donne et puis il est plus là. Alors que là, je peux en donner, j'en ai toujours. Ouais. Puis ça se vend moins cher, c'est plus simple. Parce qu'on vend rien sinon.
Est-ce qu'il y a dans la sculpture, dans le géant, donc ça sera, comme vous dites, géant, ça...
Non, je pense peut-être 2 mètres max de haut.
Vous êtes déjà pas mal.
Ouais. Ben, quand j'étais petite, pour apprendre à dessiner, je prenais de la pâte à modeler, je faisais la forme, et comme ça, j'arrivais à dessiner après. Je sais pas, ça a peut-être un rapport avec ça.
Alors, l'espace ici et les œuvres qu'on y voit, c'est... un espace de liberté très important. C'est une expérience de liberté, en tout cas pour le visiteur qui va regarder les œuvres.
Ouais, puis pour nous aussi, pouvoir faire des trucs grands, parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas des espaces où on peut faire tout ce qu'on veut comme ça. Les grandes sculptures, c'est marrant, mais c'est qu'en résidence, dans des espaces grands, quoi. Dans mon atelier, c'est compliqué.
Est-ce que cette expérience de liberté, vous en faites un geste politique?
Disons que cette sculpture-ci, je pourrais pas trop lui donner une dimension politique parce qu'il y en a pas, honnêtement. Par contre, j'ai déjà fait des trucs où on m'a embêté parce que c'est trop trash ou même que parfois il y a des lois contre ce genre de trucs. Mais moi, je suis très de gauche, mais je fais pas trop d'art politique. Mais si ça emmerde des gens de droite parce que c'est trop trash, tant mieux, oui. Voilà. Mais bon, je ne vais pas écrire « Sauver Gaza » sur ma sculpture non plus. Ça serait un peu hypocrite. Même si je le pense, mais ça n'a aucun lien. Voilà.
Et moi je suis très intéressé par tout ce qui est, on va dire, art médiéval et aussi tout ce qui est peinture dans les églises, sculpture dans les cimetières et tout ça. Donc forcément, le vitrail m'intéressait pas mal. Et on avait parlé d'éventuellement faire une collaboration. Et, vu que Laurent Bouzédiat a exposé au Stirput à Bruxelles, qu'Émilie et Sylvain ont ouvert, bah, voilà, quand ils ont ouvert ici, ça s'est fait que c'était pas mal comme occasion pour faire la collab vitrail. Comme ça, on présentait le vitrail qu'on faisait ensemble pendant l'expo d'ouverture.
Vous êtes connu, reconnu aussi par le tatouage. Alors, quel est ce lien? Qu'est-ce que représente le dessin et l'univers pictural par rapport au tatouage?
Disons que moi, mon lien, on va dire, avec tout ce que je fais artistiquement est assez, on va dire... art populaire, enfin j'ai un gros intérêt pour l'art populaire, que ce soit l'art brut ou comme disait Alé, enfin pour moi les cimetières c'est un peu des musées aussi. J'aime bien en fait quand l'art n'est pas forcément dans l'espace muséal en fait, et le tatouage, quand j'ai fini mes études d'art et que j'ai commencé à me faire tatouer, j'avais un peu laissé tomber le dessin et je travaillais plus en vidéo, je faisais pas mal de vidjink et je collaborais avec des groupes, et puis au final j'ai commencé à faire mes trucs moi-même, mais j'aime bien cette idée de faire des trucs qui ne sont pas forcément faits pour être accrochés au mur et tout ça, et forcément le tatouage c'était pour moi une bonne manière de reprendre le dessin. Je pense qu'il y a aussi clairement le collage qui a une grosse influence. Enfin, on va dire dans les médiums que j'emploie, je fais du DJing, c'est faire des espèces de collages avec des séquences de morceaux. Je fais du VJing, c'est pareil, ça allait reprendre des petites parties. Je filme très peu, enfin, c'est beaucoup plus du sampling sonore et visuel que je fais. Donc, dans la technique, il y a cette idée de collage. Et en dessin, je fais un peu des collages dessinés, quoi. J'ai toutes des bases d'images, des livres, et en fait, je feuillette et j'ai rarement une idée à la base, et c'est une espèce de, comme une écriture subliminale, mais en images, quoi. Je vais prendre un œil à gauche, un œil à droite, qui sont pas de la même personne ou quoi, et ça crée, l'image se crée au moment où je dessine, et j'ai aucun, les dessins que je préfère faire et que je trouve qu'ils sont les plus efficaces, ça fonctionne comme ça, quoi. C'est vraiment du dessin un peu subliminal où le truc se construit et il y a une histoire, il y a quand même une espèce de côté narratif dans ce que je dessine, mais que j'essaye pas de définir. Je trouve que c'est important aussi que n'importe qui puisse faire sa propre histoire en regardant un dessin. C'est pour ça que j'emploie fort des symboles très connus ou très populaires, parce que d'office, ça rattache toujours les gens à une espèce de savoir collectif, avec des images qu'on connaît tous.
Il y a dans l'espace une sorte d'expérience de liberté auquel tout le monde est convié. C'est une dimension politique, donc. Comment vous le ressentez, vous, de votre côté, vous la modeler, cette expérience de liberté,
je trouve ça un peu prétentieux de dire qu'on fait un art politique. Je pense que c'est pas le combat le plus efficace, même si après ça, en effet, ça crée une espèce de communauté où je pense qu'on est quand même tous assez axés à gauche dans les gens qui travaillent avec l'orbisme. Personnellement, j'aurais pas la prétention de dire que mon art est politique. Au mieux, il est éthique, parce que forcément, je réfléchis à ce que je dessine. Je prends un bête exemple, mais mes personnages sont rarement sexués, mâles ou femelles. C'est toujours un peu des espèces d'hybrides. Enfin, c'est un bête exemple. Je pense que oui, si je veux un peu donner... Mais bon, moi, j'ai un peu une méfiance avec ce sursens et ce pouvoir que je trouve un peu branlette intellectuelle de... Enfin, si tu veux faire la révolution, c'est pas en faisant un dessin que tu le feras. Il faut avoir des actions beaucoup plus directes et concrètes. Après, c'est très bien et c'est important aussi, parce que ça, comme je disais, ça peut... Enfin, même quand on voit dans toutes les... Enfin, je prends par exemple la guerre 40-45, où le swing était interdit. Les jeunes allemands organisaient des soirées clandestines où ils écoutaient du swing. Donc, je pense que l'art est nécessaire. Enfin, ça permet aussi de décompresser, d'extérioriser des choses. Mais je trouve que c'est lui... Enfin, ça me fait toujours légèrement sourire, les artistes qui se la jouent. Moi, je fais de la... Enfin, c'est un impact, non, je pense pas. Enfin, ou même, je pense à Nina Simone, qui était quand même fort considérée comme une chanteuse engagée politique. Et j'avais vu une interview d'elle où elle pleurait en disant qu'elle avait raté sa vie parce qu'elle voulait être justement une militante et qu'on l'a forcée à faire de la chanson alors qu'elle aurait préféré porter les armes. Et Je veux dire, enfin, c'est un peu, je crois, se donner beaucoup trop d'importance que de se prétendre un révolutionnaire en faisant un petit dessin.
Alice Polka, vous êtes en résidence à l'Orbise. Mm-hmm. Vous êtes en train de faire une peinture sur verre.
Ben, je fais d'abord un dessin préparatoire sur papier, assez poussé, mais avec principalement les contours. Et après, je viens appliquer la vitre par-dessus et je trace les contours avec un petit tube spécial qui est censé imiter un peu le rendu du vitrail avec le plomb. Et après, je vais coloriser, faire des ombrages, rentrer un peu dans les détails.
Et comment se travaille la couleur sur une surface comme celle du verre? Comme pour le trait, c'est de l'encre, c'est...
Bah, c'est de la peinture sur verre, un peu comme des vernis, en fait.
D'accord.
C'est à base de solvant, donc c'est assez nocif. Mais ouais, c'est des sortes de vernis, en fait. En plus, ça sèche assez vite. Et je pense que pour le nettoyage, c'est un peu... Bah, c'est, à mon avis, avec du white spirit, donc c'est pas génial. Donc ouais, il faut vraiment le faire tous les aplats d'un bloc. Et puis après, on peut revenir passer dessus une fois que c'est sec pour ajouter des teintes ou des... Mais oui, c'est pas comme de la peinture à l'huile où on va pouvoir venir retravailler. Ça met, c'est très long à sécher.
Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce support?
Ah bah, là, c'est purement le côté faux vitrail, enfin imitation vitrail, puisque je fais pas de vitrail, mais là, on a un rendu qui évoque le rendu du vitrail classique. Enfin, qui s'approche un petit peu, on va dire. Et il y a le côté... enfin, voilà, on peut jouer avec les transparences. On a des teintes qui sont quand même assez éclatantes, donc... c'est assez lent comme travail, mais du coup, c'est assez... Enfin, raccord avec la manière dont je travaille habituellement. Je passe beaucoup de temps sur des petites choses. Ouais, je suis pas dans le geste rapide et...
À l'énergie.
Non, pas du tout.
Vous faites de la gravure et du dessin. C'est le même énergie de trait, c'est le même côté posé.
Ouais, c'est ma manière de travailler qui est comme ça. Enfin, j'aime bien prendre du temps sur les choses, me plonger dans les détails, cacher des petites surprises aussi. Et
qu'est-ce qui vous plaît dans la gravure?
La minutie, le côté pas du tout, pas vraiment raccord avec notre époque, je trouve, parce qu'on est sur des temporalités assez longues. Enfin, toutes les étapes prennent quand même pas mal de temps, je trouve. Et puis voilà, c'est une forme d'artisanat. Enfin, donc on manipule la matière, les produits, les encres. Et puis aussi, bah, bien sûr, le rendu, quoi.
Alors, sur une expo comme celle de l'Orbise, qui regroupe un très grand nombre de créateurs, c'est quelque chose auquel vous êtes sensible ou pas du tout?
Ah bah oui, bien sûr, sinon je participerai pas à ce genre d'événement, mais c'est exceptionnel que je fasse des résidences, en fait. C'est vraiment quand je me sens bien dans un endroit ou que j'aime les personnes qui sont impliquées dans le lieu, mais j'ai du mal à sortir de mon cocon de travail, on va dire, habituel. Du coup, si je fais une résidence, c'est vraiment exceptionnel. Ça m'arrive pas souvent.
Est-ce que c'est important pour vous de transmettre cette expérience de liberté?
Ah oui, clairement. Enfin, c'est encore plus important aujourd'hui où la censure elle est de plus en plus, prend de plus en plus de place. De pas nuancer son propos, enfin de pas se plier à certaines normes ou à un certain goût ou à certaines modes aussi, enfin ouais je pense que c'est hyper important, encore plus aujourd'hui.
Est-ce que ça peut être un geste politique?
Oui, clairement, clairement, il y a du politique, je pense, un peu partout dans le propos, dans la manière de s'exprimer, dans à peu près tous les choix qu'on fait, en fait. Dans la volonté de faire en sorte qu'un art soit accessible. Ouais, je pense qu'il y a du politique partout.
Merci. Une sélection musicale faite par Sylvain Etchegaray. Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Émilie Ouvrard après ces trois entretiens enregistrés lundi 15. Donc Émilie Ouvrard avec Sylvain Etchegaray ont ouvert leur bise et le vernissage de la première exposition d'inauguration a lieu le samedi 20 septembre. Émilie Ouvrard, qu'est-ce qui va se passer alors le 20 septembre? Comment ça va se dérouler?
Donc on ouvre les portes à 17h pour le vernissage de l'expo. Et par après, on propose une cantine et des concerts à l'Étuve, qui sont nos voisins, le pas de porte à côté.
Dans une démarche proche, avec des...
Oui. Oui, ça tombait bien. On était contents aussi, quand on a visité le local, d'avoir l'Étuve pour voisins. Donc nous, quand on est arrivés, on a participé aux réunions de la zone publique qui organise les événements publics à l'Étuve. Pour donner un coup de main, on aime bien les projets collectifs et associatifs. Et voilà, on a proposé de faire l'ouverture de leur bise et le vernissage de l'exposition en collaboration. Donc,
Alors la cantine, c'est vers 19h ou peut-être 20h, je ne sais plus.
Oui, c'est ça. La cantine est prévue ouverture à 19h et les premiers concerts sont prévus à 20h30. Et au niveau du bar, il y aura un peu de vin chez nous et le bar de l'Étuve ouvrira assez tôt, vers 18h, pour que les gens puissent se rafraîchir. Voilà.
Alors, pour les concerts, donc il y a Sylvain qui va être associé à Paquito Bolino. Il y aura donc un concert Paquito Bolino, Sylvain Etchegaray.
Oui, voilà, oui. Oui, pendant cet été, il y a Paquito Bolino donc qui est le cofondateur du Dernier Cri, un atelier de sérigraphie et une maison d'édition qui existe depuis 25 ans à Marseille. Donc Paquito Bolino est venu cet été en résidence à l'Orbise. Il a fait une très grande peinture et on a accroché des dessins à lui pour l'exposition. Et il est également musicien. Et comme Sylvain est également musicien, ils ont joué de la musique aussi pendant une semaine. Et il en est ressorti un petit album disponible sur le net et un concert qui aura lieu en premier le samedi soir.
Alors, au niveau du... Quelle est l'économie d'un tel lieu ou quelle est-elle l'économie déjà de Sterput et quelle sera l'économie de l'Orbise ?
Le Sterput donc était sous forme d'association. Le Sterput vivait grâce à des subventions de la région et de la communauté en Belgique. Après, il y avait parfois quelques ventes du bar ou d'ouvrages ou d'œuvres, mais disons qu'on a pu justement pérenniser le projet vraiment grâce à des subventions publiques. Sinon, je ne sais pas si le Sterput pourrait encore exister, parce que louer un lieu à Bruxelles, c'est extrêmement cher. Donc voilà, donc le Sterput vivait comme ça et vit toujours comme ça, et est assez stabilisé à ce niveau-là. Et pour l'Orbise, ben, on vient de monter l'association, donc on a créé une association. Et bon, là, c'est la première année. Le local, par contre, là, on l'a acheté. Donc, il y a une partie du local, en fait, c'est un espace privé, c'est notre espace personnel, et une autre partie du local qu'on met à dispo pour l'association. Donc, déjà, quand il n'y a pas de frais de locaux, bah, ça soulage beaucoup les projets. Et après, là, pour l'instant, tout est auto-financé, auto-bricolé. Là, on est dans le local depuis le mois de janvier, et Sylvain travaille à temps plein dans le local pour le réparer, le mettre en l'état. Voilà, il y a eu vraiment 6-7 mois de gros travaux. Et après, ben moi, je suis à mi-temps, donc pareil, on donne beaucoup de notre temps et de notre énergie et de nos sous au projet. Et par la suite, une fois que cette première année sera passée, on va monter des dossiers. Et étant donné qu'on s'est mis sous forme associative, moi, j'aimerais essayer de demander à nouveau des subventions pour aider le projet et surtout là pour essayer de défrayer les artistes en fait. Voilà. Là, le but principal, c'est de pouvoir défrayer les artistes qui viendraient et de aussi pouvoir payer tout ce qui est matériel, les expositions à monter, ça coûte aussi un peu de sous. Donc voilà, c'est l'idée, mais vu le contexte politique actuel, on a quelques doutes. Mais en tout cas, le local est à nous. Voilà. Donc ça, c'est déjà. Déjà une certaine stabilité, on va dire.
Alors, c'est une expérience de liberté à laquelle vous nous conviez, tant par celle des artistes qui affirment leur choix, mais c'est aussi, vous, un choix fort de vous engager ainsi dans un tel mouvement. Qu'est-ce que représente cette expérience de liberté ? J'ai posé la question à Polka, à Chakinon et à Pete du Congo. Alors, est-ce que c'est un geste politique aussi pour vous ?
Tout est un peu politique, ça dépend la définition qu'on donne à la chose. J'ai un peu l'impression que tout acte est politique, quoi. Toute consommation, toute façon de vivre, toute façon de penser le monde ou de voir le monde est politique. Mais on n'est pas une asso engagée de manière explicite. Après, de manière implicite, il est certain qu'avec ce qu'on propose, ce qu'on montre, ce qu'on soutient, on a tous un peu le même point de vue sur le monde. Mais voilà, après, on se dit pas une asso engagée ou politique. On est dans l'art, quoi. Il peut y avoir de l'art politique, c'est pas forcément ce qu'on fait, mais après, voilà, implicitement, parce qu'on défend et parce qu'on montre, c'est un certain point de vue sur le monde, qui n'est pas forcément partagé par ceux qui dirigent le monde actuellement, je pense. Voilà.
Donc rendez-vous samedi 20 septembre à 17h à l'Orbise. Donc lorsque vous entrez dans Pondéreau en venant de Ganges, ça va se situer sur la gauche. C'est après les brocanteurs et il y a un moment, un petit renfoncement et on voit bien l'Orbise et il y a l'étuve juste après. Et ensuite, lorsqu'on continue, ben, on va traverser le pont. Donc c'est bien avant de traverser le pont. Merci beaucoup Émilie Ouvrard. Donc on se retrouve samedi à l'Orbise pour cette inauguration. Avec un grand nombre d'invités, je suppose.
Oui.
C'est magnifique. Merci. Merci en tout cas.
Merci à vous.
À très bientôt, à samedi.
À samedi, merci. Au revoir.
Au revoir. Merci donc, Antoine, pour cette technique et donc à l'Orbise, à Sylvain Etchegaray qui a assuré la programmation musicale avec trois morceaux punk. Il y a une démarche, une dimension punk dans cette démarche qui était, comme l'avait dit Charlotte, on n'a pas de moyens, mais on fait, on édite. Et ça a été la grande force du punk de pouvoir sortir des 45 tours, principalement en très grand nombre, grâce à cette énergie collective. La semaine prochaine, je ne peux pas encore vous dire qui sera mon invité, mais il y en aura un. Et donc, on se retrouve jeudi prochain. Et très belle semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade.
Écriture dessinée.